Du temps où j'étais adolescent, j'ai d'abord pensé du temps pas si lointain, puis je me suis dit, ben non, ça fait quand même un demi-siècle, quand même. Donc quand j'étais adolescent et que je passais mes vacances à la campagne, j'allais travailler comme cela se faisait à la ferme, j'allais travailler dans les champs. C'était le temps où on avait besoin de main-d'œuvre, ou plutôt toute main-d'œuvre était bonne à prendre, sans risquer de se voir accusé d'exploitation indigne ou de travail dissimulé. Et on apprenait ainsi, tout jeune, que le travail de la terre est dur. C'est dur pour le dos. Je me souviens, même si j'étais jeune et encore plus petit qu'aujourd'hui, à sarcler les échalotes, ramasser les courgettes, trier les betteraves. C'est dur, c'est long, c'est ingrat. C'est exactement comme l'éducation des enfants. Avant qu'on ne cherche depuis systématiquement à tout automatiser, au maximum, standardiser. Alors on dit, et c'est vrai que les produits et les aliments avaient un autre goût. On ne peut pas dire du goût, ils avaient un autre goût. Un autre goût et un autre coût aussi. Et il suffit de regarder par curiosité l'évolution du budget des ménages sur la même période, en 50 ans. La part de l'alimentation a été pratiquement divisée par deux. C'est énorme! De 29% à 17%. Il faut se rendre compte du changement considérable. Même chose dans l'automatisation pour tout ce qui concerne l'habillement. À l'inverse, les loisirs, la téléphonie. Mais bref, en ce temps-là, il y avait un refrain qui faisait mon bonheur, qu'on utilisait pour les petits veaux. Vous savez, c'est mignon les petits veaux qui sont à côté de leur mère. Et on disait, ils profitent. Il faut le dire quand même dans le texte. Ils profitent. Ils profitaient des meilleures conditions de vie, d'attention, de soins, de la nourriture effectivement la plus saine. Ils grandissaient, ils profitaient avant d'être mangés. Va mon petit, profite. Mange, nourris-toi avant d'être mangé, de nourrir les autres. Ça s'appelle très exactement le service de la vie. Pas la loi de l'existence, le service de la vie. Nourrir ceux qui ont faim. Pas seulement de pain, mais de tout ce qui nourrit vraiment entièrement la personne, l'âme, l'esprit, l'intelligence, l'imaginaire, tout ce qui fait rêver. Manger, prendre les forces pour se nourrir, nourrir et en faire profiter les autres, pas que pour soi. Et on peut se demander par quelle dérive nous en sommes venus dans l'Église, et je dis dans l'Église parce que c'est ce qui nous concerne, à concevoir la vie et le service de la vie pratiquement uniquement sous ces angles d'entrée et de sortie. La vie naissante ou la fin de vie. Qui fait qu'il y a une expression assez juste lorsque nous disons que l'Église, elle s'est cornérisée. Son message concerne effectivement les coins. Et c'est une image qui est quand même d'actualité, l'image footballistique par excellence. Se cornériser. Ne plus jouer que dans les coins, ou ne jouer que sur les coups de pied arrêtés, au lieu d'essayer de vraiment déployer un vrai plan de jeu, d'attaque, une stratégie offensive, d'occuper le terrain, de parler de la totalité de l'existence. Et en particulier, de rappeler que c'est avec ses amis et au cours d'un repas, que le Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement suprême de la charité et de l'unité, la messe. Au cours d'un repas avec ses amis. Et Jean-Paul II, dans une lettre aux familles de 1994, les apostrophe ainsi, il disait, le Christ n'a-t-il pas institué l'Eucharistie dans un contexte familial? Au cours de la dernière scène, mais un contexte familial, manger la Pâque en famille. Et il ajoutait, quand vous vous rencontrez pour les repas, et que vous êtes unis entre vous, les deux, pour les repas unis entre vous, le Christ est proche de vous. Voilà ce que nous voulons vivre à Noël. Au cours d'un repas, d'une fête, mais dans l'unité familiale. Depuis les premières lignes de la Bible, sur la nourriture que Dieu nous donne. Les herbes et les fruits qui sont sur la surface de la terre. Cette terre à cultiver, à travailler dans le plan de Dieu. Avant même que ce travail se fasse péniblement à la sueur de notre front. Jusqu'à la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse, le repas des noces de l'agneau, toute l'Écriture nous ramène à cette réalité fondamentale et incontournable, ce que nous célébrerons à Noël, après avoir adoré l'enfant Jésus dans la mangeoire, il faut travailler et manger pour vivre. Souvenez-vous, il y a trois dimanches, l'ordre de Saint Paul. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et il disait à l'intention de ceux qui mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire, cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Mes amis, ceux qui sont de mon âge, ma génération, les uns après les autres, ils commencent à prendre leur retraite. Et je m'inquiète pour ceux qui n'ont rien préparé de leur vie intérieure, qui vont se retrouver non pas face à eux-mêmes, mais face à l'image disloquée, le résidu d'image sociale d'eux-mêmes. L'exact contraire de Jean-Baptiste qui avait commencé par la solitude, par se construire lui-même à l'écart, avant d'accueillir les foules. Je vous ai proposé pour ce temps de l'Avent de reprendre les devoirs principaux de la famille tels que Jean-Paul II les expose dans sa lettre, son exhortation de 1981, Familiaris Consortio. Et dimanche dernier, je vous disais que le premier devoir de la famille chrétienne, c'est la formation d'une communauté de personnes. Une communauté de vie et d'amour. Et que cela suppose un objectif commun, de marcher à la lumière, ensemble, vers la lumière du Seigneur. La famille est en moins une origine qu'une espérance. Eh bien, le deuxième devoir de la famille chrétienne, c'est le service de la vie. Le service de la vie, parce que la famille, c'est une communauté de vivants, qui est faite pour la vie, autant extérieure, qu'elle soit sérieuse ou joyeuse, qu'elle soit laborieuse ou festive, que la vie intérieure de notre âme. Nourrir son âme, protéger son âme, autant que son corps. La formation d'une communauté de personnes dans tous les sens, dans toutes ses dimensions. Et si la formation d'une communauté de personnes exige, je vous disais l'expression de Jean-Paul II, un effort constant d'attention et de service les uns aux autres. Le service de la vie exige, lui, un style de vie simple et sobre. Cette expression de Jean-Paul II se trouve dans le passage de Familiaris Consortio qui est consacré à la mission d'éducation des parents. Bien qu'affrontés aux difficultés souvent plus grandes aujourd'hui de leur tâche d'éducateur, les parents doivent, avec confiance et courage, former leurs enfants au sens des valeurs essentielles de la vie humaine. Les enfants doivent grandir dans une juste liberté à l'égard des biens matériels en adoptant un style de vie simple et sobre, convaincu que l'homme vaut davantage par ce qu'il est que par ce qu'il a. Le texte français, la traduction dit un style de vie simple et austère. Mais le terme d'austérité a pris une telle connotation qu'il est préférable de parler plutôt de sobriété pour faire porter l'accent sur l'équilibre, la modération, davantage que sur la gravité. C'est ce que dit l'austérité. On sera austère au carême lorsqu'on verra l'arrivée du printemps. Là, on n'en est même pas encore à l'hiver. À l'approche de Noël, soyons plutôt sobres. Mais surtout, gagner en liberté devant les biens matériels. C'est ça le sens d'une vie, d'un style de vie simple et sobre, et c'est très exactement ce qu'incarne Jean-Baptiste. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient à sa naissance à l'âge de la retraite. Lui, Zacharie, servait dans le temple quand ils ont été exaucés dans leur prière, et que elle, Élisabeth, est devenue mère à l'âge d'être grand-mère. Ils ont transmis à leur fils, à Jean, l'adoration de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de la création. Le sens du vivant, de la création. Ce qui fait que Jean, le moment venu, put effectivement désigner le Christ à ses disciples, qui sont devenus ses apôtres, André, Simon, Pierre, Philippe, Nathanaël ou Barthélemy. Parce que Jean leur avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour cette deuxième semaine de l'Avent, je vous propose, pour continuer à entrer dans la profondeur de Noël, de vous arrêter, de vous interroger sur notre style de vie, sur la possibilité de retrouver ou d'adopter un style de vie plus simple, plus sobre, qui laisse plus de place à Dieu, plus de place aux autres, plus de place à notre vie intérieure.